nous sommes à Pierre Vert pour passer une heure à parler photographie. Et c'est une belle émission que nous allons avoir comme chaque année, et avec grand plaisir j'accueille tout d'abord le président des Nuits Photographiques de Pierre Vert, notre ami Stéphane Cosman. Bonjour Stéphane.
Bonsoir.
On est en plein dans l'activité et dans l'actualité de cette 8e édition, et aux côtés de Stéphane et des photographes isés.
Tout à fait.
Vous avez avec le maire André Mille, décesseur à la mairie, et cette année aussi, comme l'année dernière, avec le soutien de l'agglomération Manosquine.
Oui, oui, mais enfin, les nuits photos avec la DLVA, pour eux, c'est vraiment, ça leur permet d'avoir plus de logistique, plus de moyens.
D'ailleurs, vous avez une exposition actuellement à Manosque, comme l'année dernière, c'était en Sylvester l'année dernière. Cette année, c'est Peter Knapp qui est exposé à la Fondation Cardou. Il y a aussi Sainte-Tulle qui est mobilisé par cette affaire. Et évidemment, votre village, enfin, tout le monde est mobilisé. Et puis, vous avez beaucoup d'expositions disséminées.
Beaucoup de lieux. Oui.
C'est un moment fort pour la commune, les nuits photographiques.
Ben, c'est un des plus gros événements de la commune.
Et vous êtes avec votre équipe et tous vos collègues élus mobilisés sur cette opération.
Oui, oui, il y en avait beaucoup qui étaient présents hier. Beaucoup vont aux projections. Oui, on est très solidaires de cet événement. Et c'est vrai que moi, en tant qu'adjointe donc à la culture et aux associations culturelles, je suis très très fière de cette association.
Alors en plus, il y a un photographe, Pierre Verdant, qui ne le savait pas, il est le pauvre, il ne pouvait pas le savoir.
Non, il est mort en 64.
Voilà, en 1964, c'est Jules Imbert qui nous quittait, et dont vous avez exhumé les photos du village. C'est aussi un témoignage patrimonial important.
Oui, Jules Imbert donc, est un Pierre Verdant, qui était secrétaire de mairie et qui était photographe. Et ça me tenait à cœur qu'on lui rende hommage, parce que nous lui devons tout le patrimoine de Pierre Verdantan, les photos des années 50, et pour moi c'était important de lui rendre hommage. Alors je lui avais rendu un hommage plus modeste lors des journées du patrimoine, l'année dernière, à la salle de la Frache, en exposant quelques-unes de ses photos. Et là, donc, il est en préambule des projections nocturnes, les images défilent. Donc vraiment, je suis enchantée. J'ai fait cette proposition à l'association. J'ai commencé par en parler à Stéphane. J'ai reçu un avis favorable. Après, Henri Cartman et François-Xavier Emery s'en sont occupés. Et vraiment, c'est super. Je suis ravie.
Ouais. Oui, ça permet d'inclure le passé, j'allais dire urbanistique, oui. Social de la ville de Pierre Vert, du village de Pierre Vert. À des expositions de photographes de renom, hein, Marie-Laure de Decker, Peter Knapp,
oui,
etc.
C'est un des premiers photographes de Pierre Vert, finalement.
Et en même temps, bon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne pouvait pas se douter qu'il allait être projeté dans un festival de cette envergure, n'est-ce pas, Stéphane? C'est une bonne chose. En même temps, c'est se retourner vers Pierre Vert aussi, et vers la photo familiale d'antan.
C'était une très bonne chose. Il y avait à peu près 600 images, et on va pouvoir les présenter à chaque début de projection.
Donc c'est
tous les soirs, quand les personnes arrivent sur le site, ils ont les images de Pierre Vert qui tournent un petit peu en boucle, et les personnes peuvent s'installer avec ces images.
Et ça permet d'expliquer peut-être aussi pourquoi ce festival se déroule à Pierre Vert. C'est une bonne chose, et c'est une bonne activité. Alors, c'est un festival qui nous permet aussi de découvrir des jeunes photographes de talent. On va remercier Fabienne Crébaza de toute son activité, et puis d'être présente chaque année aussi ici même en plateau. Merci Fabienne, vous restez avec nous bien sûr, hein, si vous voulez. Et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Plochu. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors vous êtes une jeune photographe qui est exposée au musée de la vigne et du vin ici même à Pierre Vert. Et c'est une expo très particulière parce que, d'abord, le sens de cette expo et le rôle de cette exposition, vous êtes penché sur un problème très important, très grave, qui est l'inceste.
Oui, c'est ça.
L'inceste, alors déjà, c'est quelque chose qui est quasiment tabou, hein, on en parle peu. Et vous, non seulement vous en parlez, vous montrez des choses. Alors évidemment, c'est pas trash, hein, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose de très, très respectueux. Il y a des images, il y a des phrases. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ressortent de vos photos. On ne sort pas indemne de votre exposition et c'est une bonne chose. Comment vous est venue cette idée de faire une exposition sur l'inceste?
En fait, plus généralement, je travaille sur depuis 4 ans sur les problématiques et tabous liés à l'enfance. Tout simplement parce que la société dans laquelle je vis, le monde dans lequel qui m'entoure, m'interroge. Et je trouvais que l'enfant avait une place de plus en plus importante dans notre société, et paradoxalement, tout ce qui le concerne et qui peut être difficile ou qui peut le meurtrir, on ne veut pas en parler, c'est comme si on ne voulait pas le voir. Donc l'un des sujets issus de cette thématique globale est effectivement Sans preuve et sans cadavre, qui aborde l'inceste.
Alors il y a du non-dit aussi, et il y a du non-vu dans vos photos.
Oui.
C'est-à-dire que ça laisse le libre cours à l'interprétation. Et puis, il y a des écritures, donc il y a des phrases. Comment vous avez recueilli ces phrases?
Alors, ces phrases, en fait, ce sont des extraits du témoignage d'anciennes victimes d'inceste avec qui je suis rentrée en contact par différents moyens, ou en tête-à-tête, ou alors tout simplement par téléphone, ou par mail, ou par échange. Ça m'a demandé énormément de temps. De mise en confiance pour pouvoir recueillir en fait tous ces témoignages.
Je vais en lire quelques-uns si vous voulez bien. Alors ça accompagne évidemment, hein, c'est comme une légende photo qui accompagne, le mot n'est pas terrible, légende en plus, vous imaginez ce que ça véhicule comme idée. Donc c'est on va dire c'est un sous-titre de cette photo, et les photos sont magnifiques, elles sont très révélatrices, et par exemple on trouve des phrases comme celle-ci. Je me trouvais debout devant lui et lui assis sur les escaliers. Il me parle, puis petit à petit commence à mettre sa main sur ma jambe, puis monte petit à petit. Trois petits points de suspension. Déjà là, on voit de quoi on parle. Et puis une autre phrase. Il y a une poupée en bas d'un escalier. Et cette phrase. Petite fille, je frappais avec violence l'entrejambe de ma poupée avec une fourchette. Une autre photo aussi, une poupée là, pareil. J'avais l'habitude de découper la tête de mes poupées au niveau des yeux pour voir ce qu'il y avait dedans. Tout est dit, en fait, là.
Oui et non, parce qu'en fait, ces phrases, cet extrait de témoignage, c'était ce qui était resté en suspens dans la tête des gens pendant toute la phase de déni. Quand il arrive quelque chose de violent aux gens, il y a une phase de déni plus ou moins longue. Pour les victimes d'inceste, c'est quasiment toujours le cas. Et ces petites choses, hein, qui paraissent insignifiantes ou qui paraissent anodines parfois, une odeur, une sensation, un début de scène, une phrase dite, étaient là en suspens pendant des années. Et c'est que lorsque la phase de déni s'arrête et que toute la violence qui a été commise revient complètement à l'esprit des gens, que tout ça prend sens.
C'est une exposition qui peut déranger des personnes.
Oui, je l'entends complètement, mais en même temps, c'est un sujet qui est certes tabou, mais je trouve important aussi de parler, parce que ces enfants, on les écoute pas, on les a pas écoutés. Aujourd'hui, c'est toujours tabou. On fait souvent aussi l'amalgame avec la pédophilie. Il faut bien penser que l'inceste, en fait, c'est de l'abus sexuel au sein de la famille.
Donc, dans un cercle familial, vous imaginez aussi ce que ça peut représenter, et puis il y a des familles qui sont touchées par ces questions-là, et évidemment ça devient un secret familial, et alors là aussi il y a beaucoup de non-dits, un vécu un peu particulier. Vous avez d'autres sujets de prédilection dans vos expositions et dans vos travaux photographiques?
Alors autour de cette thématique globale, donc il y a l'inceste, j'ai travaillé également sur la disparition des enfants, sur les 20 cas de disparition d'enfants en France de 1977 à 2010, pour lesquels il n'existe rien, aucun indice, aucune preuve, aucun corps retrouvé. J'ai travaillé également sur le harcèlement scolaire,
sur l'enfermement des jeunes filles jusqu'à la fin des années 60 dans les institutions religieuses telles que le Bon Pasteur. Et je travaille actuellement sur l'infanticide.
L'outil photographique, c'est un outil qui vous convient pour évoquer ces questions ?
Oui, c'est un très très bon moyen pour parler, pour dire sans forcément trop en dire, pour amener à la réflexion, pour déranger sans heurter, pour voilà, c'est un très bon moyen de communiquer la photographie.
En même temps, il y a un côté esthétique dans vos photos, c'est indéniable.
C'est aussi une volonté de ma part de faire des images qui peuvent être jolies, esthétiques, qu'on regarde avec facilité, et en fait le texte vient amener une seconde lecture à l'image, et c'était vraiment une volonté de ma part.
C'est une des expositions des Nuits photographiques de Pierre Vert que je vous invite à aller visiter. C'est au Musée de la Vigne et du Vin à Pierre Vert. Merci encore Virginie Plouffy d'avoir été mon invitée. Et puis bravo pour le travail que vous faites, qui est un travail qui dépasse largement le cadre unique de la photo. Et ça me plaît bien. Il y a quelque chose d'important et d'utile pour notre société qui doit se pencher sur ce type de questions et de problèmes. Merci Virginie.
Merci beaucoup.
À vos côtés, Guillaume de Sardes qui nous a rejoint, qui est un jeune personnage très particulier, Guillaume de Sardes, parce qu'il est polyartiste. On va en recevoir d'autres de polyartistes dans un moment ici même. Il est intéressé par la littérature, par la photo, mais en même temps, il veut partager toutes ces choses-là. Guillaume, vous êtes aussi en charge de plusieurs festivals, notamment un festival à Sanary. Vous avez aussi, vous êtes occupé, je crois, d'un festival au Maroc et puis au Liban. C'est une passion pour vous que vous voulez faire partager absolument la photo?
La photo est un des médiums qui m'intéresse le plus avec la vidéo d'art. Et je suis un petit peu sur ces deux créneaux, beaucoup à l'international, parce que je pense que se contenter de regarder l'art français, c'est vraiment réduire à pas grand-chose une richesse réelle.
Et comment vous est venue cette idée de créer des festivals de manière à aller vers un public et d'essayer d'ouvrir cette discipline?
Alors la vérité, c'est que je suis commissaire d'exposition, donc on a fait appel à moi pour faire la programmation, mais j'ai pas créé ces festivals. Pour ce qui est de Photomed, c'est deux amis là, qui s'appellent Philippe Belan et Philippe Sérénon qui sont.
Photomed, c'est à Sanary, c'est bien ça?
C'est à Toulon, Sanary, Marseille d'une part, et d'autre part à Beyrouth au Liban.
Et pourquoi ce lien avec le Liban?
Parce que ça, je crois que c'est un petit peu le hasard, c'est la vie. Le Liban a été un des pays invités, un pays qui est mis à l'honneur chaque année. Mais ça s'était si bien passé que l'idée a germé assez vite de délocaliser le festival, de faire une édition à Beyrouth. Et on a trouvé sur place très vite des partenaires importants qui ont soutenu l'initiative.
On ne vit pas de la même manière au Liban qu'à Toulon ou Sanary, bien évidemment. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça apporte beaucoup de choses, votre festival, au peuple libanais et aux artistes.
Le dire comme ça serait un peu condescendant, disons, parce que le Liban est un pays quand même très riche culturellement. Beyrouth est une ville qui a des grandes galeries d'art, hein, des galeries internationales comme Sfer Semler ou la galerie Tanit. Donc je dirais pas qu'on leur apporte, ils ont pas besoin de nous, ça je veux dire, pour voir de l'art et pour en faire de très très bonne qualité. Peut-être que voilà, on apporte un peu de variété, ça permet de montrer des artistes français ou du bassin méditerranéen à Beyrouth, et à l'inverse, ils nous rendent bien puisqu'on expose régulièrement des artistes libanais en France. D'ailleurs, en ce moment, à Marseille, à la Frigibel de Mel, j'étais le commissaire d'une exposition consacrée à la ville de Beyrouth. Donc, il y a 4 artistes, dont 3 Libanais, donc, qui sont exposés en France pour la première fois. Ce sont des allers-retours comme ça.
C'est un bel échange entre deux pays, et deux pays qui s'apprécient. Hein, par le passé, le Liban et la France ont été très liés et le sont toujours. C'est une bonne chose. En tout cas, c'est une belle action qui permet aussi de voir que la photo peut rapprocher les peuples. C'est une belle chose. Merci Guillaume de Sardes d'avoir été mon invité. Puis vous êtes présent bien sûr aux Nuits photographiques avec beaucoup de curiosité, beaucoup de contacts, beaucoup de rencontres. C'est un peu le sens des nuits photographiques. Merci encore, à très bientôt dans le festival et puis peut-être par les années qui suivent à Pierre Vert ou ailleurs.
Merci.
À vos côtés, nous a rejoint, et j'en suis très honoré et ravi, C'est la marraine de cette édition, Marie-Laure de Decker. Bonjour Marie-Laure de Decker. Je suis ravi de vous avoir à nos côtés. Ça y est, je crois qu'on vous entend. Bonjour.
Bonjour.
Évidemment, vous êtes une grande photographe. Vous avez vécu des choses passionnantes dont nous allons parler. Mais première question, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici, présente dans un festival de photos en Haute-Provence?
Oh ben, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que j'existe.
À part ça?
C'est tout. Ça me fait follement plaisir. Je trouve que c'est merveilleusement bien organisé, que c'est joli. Non, je suis très contente. J'ai aucune critique.
Alors, on est ravis, nous aussi, de vous accueillir ici même. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur. Je rappelle brièvement votre carrière. Vous avez fait un peu tout dans la photographie. Vous avez été reporter de guerre, et on en parlera dans un instant. Vous avez même fait de la photo de mode. Vous avez suivi Maurice Pialat sur ses tournages. Vous avez suivi plusieurs people et vous avez fait des photographies notamment de Serge Gainsbourg ou de Gérard Depardieu, de beaucoup de gens comme ça. Vous connaissez énormément de gens, vous avez un œil spécial qui a permis de traduire en photo certains sentiments, certaines émotions, et notamment, par exemple, la guerre du Vietnam en 1970, dans les années 70. Il y a plusieurs photos qui sont affichées ici même dans votre exposition Sur Terre, ça s'appelle comme ça, ici même à la salle polyvalente à Pierre Vert, avec des rebelles tchadiens, à ne pas confondre avec des terroristes, nous disait hier Stéphane Kosman.
Surtout pas.
Surtout pas. Ce sont des gens qui défendent une cause, et une cause qui peut être louable. Pas du tout à la façon des djihadistes qui se font exploser n'importe où avec n'importe qui. Bref, fermons la parenthèse. Marie-Laure, quand on vit des époques particulières comme la guerre du Vietnam, et qu'on veut faire le lien entre l'Occident et ce qui se passe dans le Vietnam à travers des militaires, comment ça s'est passé à l'époque, cette jonction? En plus, une femme sur un territoire de guerre.
Non, femme, c'est... ça fait pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, c'est pas plus difficile pour moi que pour un garçon. C'est difficile de toute façon, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Cela dit, la guerre du Vietnam, c'était dur parce que c'était une grande injustice, quoi. C'était voir et constater que c'est un pays merveilleux, des gens extraordinaires et qui, ce qui leur arrive était un tel désastre, un tel malheur. Donc, les dernières années, à partir de 1970, c'était évident que la guerre était perdue. La guerre s'est arrêtée en 75, 30 avril 75. Avant, que dire, on a tous, enfin ma génération, on a tous été très bouleversés par le Vietnam parce qu'il y avait une injustice flagrante. Et comment on fait? Ben, on fait des photos jour après jour, quelquefois on se couche dans son lit, on pleure, quelquefois on est joyeux, je sais pas.
Vous avez choisi des photos de soldats américains que vous exposez ici même à Pierre Vert. Et c'est très curieux, ces photos. En tout cas, moi, mon regard qui est posé sur ces soldats, c'est un regard plutôt sympathique. C'est un regard quasiment poétique qui est posé sur. On voit pas de sang, évidemment, on voit pas de mort. Mais par contre, on voit des gens qui ont de drôles de costumes quand même, hein, des treillis, casques, rangers, qui ont des outils particuliers, là, avec des armes terribles. On sent qu'ils font la guerre et en même temps, il y a des sourires, il y a une vie particulière.
Oui, vous savez, les pauvres Américains qui étaient envoyés là, qui étaient en général des gens des campagnes américaines, qui connaissaient rien, qui comprenaient rien à l'histoire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes aussi font pitié, je veux dire, eux-mêmes aussi vous serrent le cœur. Et ensuite, que faire? Oui, les photographier, s'ils me sourient, bon, je sais pas, je fais sourire les gens, tant mieux. C'est mieux que de les faire pleurer.
Et il y en a une de photos où on voit un pilote d'hélicoptère avec son petit chien dans les bras, comme on peut voir ça, cette scène, à part l'hélicoptère, dans n'importe quelle rue dans le monde. Et sur l'hélicoptère, il y a quelques dessins, il y a des silhouettes de Viet Cong qu'il a certainement abattu.
C'est des gens vietnamiens. Viet Cong, ça, on ne sait pas, on saura après. Mais on ne sait pas, c'est des gens qui sont... Combien de personnes il a tué dans la journée? Donc c'est une photo qui est un peu comme Apocalypse Now, c'est-à-dire c'est un jeune homme un peu grassouillet, un peu plein de bière, qui est là, qui tient son petit chien, Et en même temps, qui sait, c'est un monstre aussi, parce que d'écrire sur les portières les gens qu'ils ont tués, bon, c'est terrible. Donc c'est entre les deux, comme tout dans la vie, entre rire et larmes, quoi. C'est toujours un peu...
On a quelques minutes, Marie-Laure de Decker, pour évoquer ensemble, si vous le voulez bien sûr, le combat que vous menez actuellement pour les droits d'auteur et pour les droits notamment photographiques, si vous le souhaitez. Je sais que vous êtes en procès actuellement.
Ah non, je suis plus en procès, j'ai perdu.
Vous avez perdu.
J'ai perdu toutes mes photos.
Expliquez-nous, et ça c'est grave.
Ben, c'est relativement simple, c'est-à-dire je suis rentré à Gamma en 72, 73, j'ai toujours payé mes films, et puis quand Gamma, s'est écroulé, comme toutes les agences, on s'est rendu compte qu'on avait perdu toutes mes photos, enfin toutes mes couleurs. Et finalement, on a été devant un juge et qui a donné raison à l'agence 4 fois de suite. Donc que dire maintenant? Je suis plus en procès, j'ai simplement perdu. Et bon, j'ai plus mes photos, c'est tout. J'ai des photos noires et blancs en quantité, mais j'ai pas de couleur, non.
Vous avez perdu le droit de vos photos ou carrément oui. Les photos elles-mêmes?
Le tout, les droits. Parce que brusquement, il s'est révélé que Gamma a voulu a dit que nous, les photographes, on n'avait pas payé les scans. Mais personne ne nous a jamais demandé de payer les scans. Si on les aurait payés, évidemment. Et là, tout à coup, il y avait 770 scans dans la vitrine de Gamma. Ils veulent pas me rendre les scans, mais ils ont perdu les photos. Donc, on est dans une situation complètement absurde.
Et c'est quelque chose qu'il fallait effectivement évoquer ici même à Pierre.
Oh ben vous êtes
donc
très gentil.
C'est une question importante sur les droits des photographes, les droits des artistes aussi de manière globale par rapport à leurs prescripteurs qui sont leurs commanditaires, les agences en l'occurrence la Gamma.
Oui, d'ailleurs si on parle de la photo en général qui est vraiment le grand art pour moi, c'est merveilleux, une chose merveilleuse. Mais je dois dire qu'on a beaucoup de difficultés. Avec les journaux, avec les directeurs d'agence, avec tout ce qui est parallèle, voyez, tout ce qui est les gens qui vivent sur notre dos et qui en réalité nous martyrisent, alors je trouve que c'est très difficile, ouais. Vraiment. Et la difficulté, c'est les relations à Paris avec les gens des journaux, c'est pas ou les gens des journaux, des agences, et, je sais pas par chez qui. C'est pas le travail, c'est pas, on me dit la guerre c'est difficile, oui, mais je sais à quoi je m'attends de difficulté.
C'est un combat que vous menez, on le sait bien, et on va vous soutenir, et en même temps on va faire en sorte que effectivement il faut que les gens et le public en général soient conscients de ces questions de droit d'auteur, de droit d'image pour les réalisateurs de ces images en question. C'est vous qui avez pris les risques en allant au Vietnam, et c'est nous qui profitons de vos risques au Vietnam, et c'est pas Gamma. Voilà, c'était une chose toute simple qu'il fallait dire. Merci encore, Marie-Laure de Decker. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui était là ici à Pierre-Verrières, mais qui a pas pu rester, c'est Fanny Sudre. Vous connaissez bien la famille Sudre. C'est une famille emblématique dans la photographie française et mondiale. Je vous propose d'écouter Fanny Sudre. On se retrouve tout de suite après.
Fanny Sudre, on peut dire que la famille Sudre est piquée par le virus de la photographie ?
Complètement, oui. Nous sommes mes parents, père et mère, qui sont photographes. Mon frère était photographe. Il a épousé une femme qui est photographe, qui est Laurence Sudre. Et moi-même et mon mari sommes photographes. Voilà, nous sommes une famille, donc, de photographes.
On peut dire que ce qui a marqué la carrière, notamment de Jean-Pierre Sudre, c'est son côté pédagogique.
Oui, dans les années 68, on était à Paris et beaucoup de jeunes sont venus le voir pour apprendre la photographie. Il n'existait pas d'école de photographie à ce moment-là. Il a été un des premiers à faire ce qu'on appelle des stages photographiques à Paris au Labo Nicole, laboratoire qu'il avait ouvert dans les années 55 pour travailler sur des tirages de photographes, enfin faire les tirages des photographes. Et lui-même travaillait surtout sur la photographie industrielle. Parce que le gagne-pain, on a été élevé avec la photographie industrielle.
On peut dire aussi que les tirages, c'est la deuxième partie de la photo après la prise de vue. Et c'est extrêmement important et ça a été un orfèvre en la matière.
Alors ils étaient tous les deux tireurs. C'était surtout, je vais dire, ma mère qui était tireur, tireuse, je ne sais pas exactement comment dire, et qui tirait pour Sieff, Charbonnier, ou d'autres maisons d'édition comme Artaud. Et mon père était aussi un très bon tireur, mais là, il travaillait vraiment en binôme. Autant ma mère ne faisait pas de prise de vue, autant mon père faisait les deux.
Et vous avez connu tous ces grands photographes ?
Oui.
De beaux souvenirs, je suppose.
De très bons souvenirs. Ça faisait partie de notre vie quotidienne. Mes parents étaient toujours... on recevait beaucoup à la maison de façon très simple. Hein. Mais donc, que ce soit Sieff, Charbonnier ou les autres, ou d'autres personnes de la photographie, comme Lucien Clergue, Denis Briat, étaient souvent à la maison.
Une belle galerie d'artistes.
Une très belle galerie d'artistes, oui.
Aujourd'hui, l'œuvre de Jean-Pierre Sudre et puis de sa famille, de vous-même, de votre mari et de toutes les personnes qui gravitent autour de la famille Sudre, elle vit comment ?
Alors, c'est compliqué. C'est pas simple. On a décidé, je suis ayant droit avec ma nièce, la fille de mon frère décédé il y a 4 ans, de l'œuvre de Jean-Pierre Sudre. Et de Claudine, qui a fait des tirages sur des procédés anciens. Les négatifs et tous les écrits sont maintenant au musée de Chalon-sur-Saône depuis quelques mois. Donc François Cheval a accepté de récupérer tout ça et de travailler. C'est en cours d'inventaire et de travailler aussi beaucoup sur la photographie industrielle. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup montrer. Parce que mon père, qui travaillait pour des grandes sociétés, l'ABP, Saint-Gobain, Carrel Fouché, qui faisait fabriquer les trains, qui sont maintenant des trains de banlieue, là, les trains en aluminium inox, n'a pas été montré en tant qu'œuvre. Et quand on regarde les négatifs, on regarde les planches de contact, on se rend compte que, entre son travail industriel, qui était notre travail de son gagne-pain, quoi, qui nous a fait vivre, aller à l'école, manger, etc., etc., il y a une relation très forte dans les moments où il se mettait devant ces grosses machines et la photographie qu'il a fait après par rapport à sa matériographie. Je trouve qu'il y a une relation forte. Il y a une vraie signature, voilà. Excusez-moi, je bafouille un peu, mais c'est un peu ça, voilà. Et donc, tous ces négatifs sont à Chalon. J'espère que, malgré le départ de François Cheval, que ça va continuer, on va voir. Quant à Julie Sudre, donc la fille de mon frère Dominique, et moi-même, on s'est partagé les tirages. Qu'on est en train de... là, en ce moment, il y a une exposition ici sur les natures mortes. Il y a une galerie américaine qui s'occupe de l'œuvre de Jean-Pierre Sudre. C'est Tom Gitterman à New York. On est très contents de cette collaboration. Et petit à petit, on va essayer de continuer à faire vivre la photographie de Jean-Pierre Sudre.
Retour en plateau, c'était Fanny Sudre qui répondait à mes questions hier. Et on continue cette émission en direct de Pierre Vert avec des invités prestigieux, vous le verrez. Et une explication d'abord avant de l'accueillir. Au début, déjà, il peignait, déjà, il photographiait, mais aussi il chantait dans la Sûre, puis en pêchant, avant de mettre ses poèmes en rock à New York. Tiens. La suite, un crocodile dans une pochette surprise, de l'art et du scalp avant une galerie d'âme solitaire, puis direction l'Australie et 3 albums, mi-Bush, mi-Melbourne aussi, un casque nu et des poèmes électro cette fois-ci. Il se pose enfin à New York, désormais New Yorker, peut-être forever, voire même immortel. Il revient avec 13 titres mis en boîte en Louisiane. Et toujours, il a portraituré des Anglais en vacances, aux Pionniers et de Rachel aux Juanita la Méduse, à Cindy, ses solo girls and boys, ou Jackie, Jacoby, sa comédienne bipolaire ou le vieil homme et son chien. Il sait aussi aller sur le canapé déconner, comme il dit, ou reprendre un classique de l'Amérique des bordels et des tripots, autant de chansons-films, des expressions-impressions qui font de lui depuis 40 ans un polyartiste unique. C'est l'homme de l'image qui est avec nous, mais impossible de dissocier le son de l'image, la musique de la photo. Bonjour Charles-Élie Couture.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même, c'est un événement pour les nuits photographiques de Pierre Vert que nous attendions depuis des années, Stéphane Kosman et beaucoup de gens ici même. Charles-Élie Couture, la photo pour vous, c'est quoi?
D'abord, moi, pour moi, chaque instant est un événement. C'est en fait, c'est la manière de percevoir le monde qui fait le monde. On peut le tout à l'heure, Marie-Laure disait très justement, dans un moment dramatique, si on est soi-même dans un certain état d'esprit, on va le voir d'une certaine manière. Moi, j'ai accepté de vivre une vie poétique, c'est-à-dire de donner mon avis, entre guillemets, c'est-à-dire mon émotion sur ce que je vis, sur les instants qui sont que ceux que le ciel m'a donné à vivre. Et donc, comme je souffre de toutes ces émotions qui sont tellement puissantes à l'intérieur de moi, il faut qu'elles sortent comme le sifflet de la cocotte minute. Et ça devient tantôt des mots, tantôt des musiques, tantôt des images. Mais je peux pas garder ça parce que c'est trop, ça me rend fou. Et donc j'avance en essayant de laisser une trace derrière, qui quelquefois me permet de me repérer sur ma propre histoire. Mais comme j'ai pas de mémoire du tout, je suis un peu comme un marcheur qui serait sur le fait d'une dune et qui verrait que au fur et à mesure ça s'efface derrière lui. Alors je suis obligé de continuer à marcher. Je fais beaucoup de choses en effet.
La photo, c'est une manière de fixer un instant particulier.
Ah, c'est ça.
Mais en même temps, ce que vous faites, c'est que vous traficotez ces photos, c'est-à-dire vous rajoutez un petit peu de couleur, un petit peu de même des fleurs parfois.
Alors, la photographie, j'en fais depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé à avoir mon labo photo sous les toits, à développer en argentique, mais à la fois mes films, et à la fois tirer mes photos. Mes premiers argents que j'ai gagnés dans ma vie à cette époque-là, la photo permettait de vivre un peu, c'était en faisant des photographies du festival de jazz à Nancy, où je venais prendre les photos au début. Et je rentrais chez moi à toute vitesse sur ma mobylette, je développais le film, je tirais les photos, et j'espérais vendre ça à la fin des spectacles. Donc la photo a toujours fait partie de mon existence, même quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, j'ai intégré la photographie dans mon activité. Mais alors, je voudrais juste préciser une chose, je ne bricole pas plus ou moins la photo que le reste, je considère que la captation d'une image du réel, ce qui est une photographie, est un moment. Je ne suis pas un photographe au sens pur du terme qui est exclusivement en relation avec le réel, mais moi j'interviens dessus. Alors, donc dans cette écriture, la photographie va servir de référent du réel, et sur ça j'écris.
Et vous utilisez parfois vos photos pour illustrer vos albums depuis déjà pas mal d'années.
Quelquefois,
vous invitez aussi des photographes à agir sur ces photos. Ça donne des pochettes qui sont assez extraordinaires, qui sont très artistiques.
L'avant-dernière a été réalisée par Gérard Ancinan, par exemple, qui est un monstre et qui a, et ça c'est formidable, qui a su voir, capter dans un jeu de lumière et de noir et blanc quelque chose que j'avais en moi. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit voilà, c'est à travers cette photo, c'est pas le disque qui vient de sortir mais le précédent que j'avais fait avec Benjamin Biolay. Et la photo donc a été faite par Ancinan, et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit oh, putain, c'est avec ça que je vais t'enterrer, parce que c'est à la fois énigmatique, on sait pas si je souris, bref, peu importe.
C'est rare d'ailleurs de voir Charles-Élie Couture en photo sur une pochette de disque.
Oui, parce que je m'efforce de faire que l'emballage entre guillemets, c'est-à-dire d'abord les pochettes de disques, aujourd'hui ça veut plus dire grand chose malheureusement, c'était avant un objet à part entière, mais aujourd'hui les gens ils prennent juste la virtualité de la musique à travers les streamings, c'est dommage, mais effectivement je croyais qu'une pochette ça devait encadrer comme quand un photographe choisit une certaine couverture pour une photo pour illustrer le contenu d'un bouquin.
C'est un festival que vous connaissez depuis des années, Charles-Élie Couture, parce que mon voisin à côté vous en a parlé régulièrement à New York, puisqu'il est lui-même aussi new-yorkais comme vous, Stéphane Kosman. Vous avez découvert cette ambiance il y a 2 jours ici même. On vous a senti complètement à l'aise ici à discuter aussi bien musique, politique, philosophie, poésie et de temps en temps photo aussi. Vous jetez un regard plutôt positif sur ce festival?
Pourquoi non? D'abord, je suis dans un pays où on s'efforce de considérer que quand on a 20%, c'est plus que 10. Donc, c'est pas comme quand on est dans celui où quand on a 80, on considère qu'il en manque encore 20. Et c'est plutôt le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc, a priori, les choses pas bonnes, moi, je les mets de côté, je les oublie, je vais pas me laisser emmerder avec des conneries. Donc, j'essaye de garder ce qui est bien. Et ici, je trouve que c'est un festival que je trouve merveilleusement encore très jeune et qui a beaucoup, beaucoup de progrès à faire, entre guillemets, mais qui est déjà extrêmement chaleureux en tant que tel. Je trouve, par exemple, que les nuits, ce que j'ai vécu hier dans la projection est de ce côté-là très abouti.
Et vous allez projeter ce soir aussi.
Oui, mais ça, c'est un détail. L'important, c'est les choses qu'on vit. Et j'ai vécu hier soir une soirée merveilleuse où, justement, le rapport, par exemple, vous évoquiez ça tout à l'heure, entre le son et l'image, et vous plonge dans une espèce de moments formidables, parce que justement, la photo, dans sa force symbolique et dans cette image suggérée, parce que c'est pas de la démonstration, la photo, Marie-Laure l'a dit très, très justement tout à l'heure, la photo, c'est un prétexte à quelque chose, et après, on va partir avec elle, on va rêver avec elle, et je trouve que la manière de faire ces nuits de la photographie est très aboutie. Voilà.
Alors, Charles-Élie Couture, vous restez avec nous, bien sûr. Je le répète, ce soir, vous êtes de la partie de la projection sur le territoire. J'ai cherché, oui, Stéphane veut intervenir.
Je voulais rappeler que Charles-Élie est le président de notre jury.
Eh oui, non, il faut dire Mr. President maintenant.
Please do.
J'espère qu'on n'aura pas un Mr. President chez vous l'année prochaine. Je l'espère, ça. On verra bien. Alors, parlons d'autre chose. Charles-Élie, j'ai cherché dans votre œuvre une chanson qui parle photo. J'ai pas trouvé. Chez Charles-Élie Couture, c'est très difficile à trouver quelque chose qui parle directement photo. Par contre, j'ai trouvé chez quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Tom Novembre, quelque chose qui a été écrit par Charles-Élie Couture quand même. Et Tom Novembre, avec un côté très nostalgique sur ce qu'étaient les appareils d'argentique et puis les photos de famille quand tout le monde se retrouvait l'été et puis allez, approchez-vous tous, on va faire une photo, les petits devant, les grands derrière, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et comme on est en plein été, c'est les défilés des mois d'été. Et on se retrouve tout de suite après.
Sous un grand sombrero idiot, avec du sable collé plein le dos, il se trimballe en short et en soquette, il paume sa montre, il oublie sa gourmette. Talon aiguillant, maillot de bain, boucle d'oreiller, crème solaire, elle suce une glace à deux boules de Walkman autour du cou. Il photographie tout ce qui bouge, une gare, un bouquet de fleurs rouges, ses amis du camping d'en face, déclencheur souple, laissez-moi une place. Un parasol Coca-Cola, la mère achète des pambagnas, puis elle fourre tout dans un plastique, elle fera jamais de ski nautique, prépare la serviette pour Benoît, quand il sort de l'eau, il prend pas froid. Et puis lui, dans ses sandalettes, qui voit pas clair sous sa casquette, déboutonne sa chemise Tahiti, qui est trop grande pour lui. Avec les Ray-Ban sur le front, il regarde passer les canoës, assis tout seul sur un rocher, et c'est la parade sous les
des palmiers. C'est le défilé des mois d'été. Ceux qui n'ont rien à cacher, ceux qui n'ont rien à montrer. C'est le défilé des mois d'été. Allez, approchez-vous tous, là, on va faire une photo de tout le monde, hein. Mettez-vous bien les grands derrière et les petits devant. Un pépère assis au milieu, voilà, comme ça. Regardez bien l'objectif, hein, je règle la netteté et j'arrive. Alors, et poussez-vous, là, pousse-toi. Allez, regardez bien. Attention, souriez. Non, faites pas de grimace, souriez, attention. Attention.
Toujours en direct de Pierre Vert, le défilé des mois d'été, c'est Tom Novan qu'on écoutait, une chanson qui a été écrite et composée par Charles Hélicouture en collaboration avec son frère Tom Novembre. Très heureux d'accueillir une Languette qui nous a rejoint. Bonjour Laurent.
Bonjour François.
Alors le jour pour toi, c'est pas terrible parce que je sais que tu fais beaucoup de photos la nuit et notamment hier soir, tu en as fait, tu as animé, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis fort longtemps, tu as animé un atelier ici même sur les photos nocturnes.
Oui, c'était une petite première au festival où il y a quelques ateliers qui sont proposés et ça c'est un plus parce que cette année on voit que ça fédère un peu les gens s'intéressent et hier soir donc il y avait après la projection une petite soirée astro pour un peu démystifier cette partie de la photographie qui est méconnue en fait, parce que c'est assez complexe dans un sens et assez facile aussi pour une autre partie de l'astro qu'on appelle le nightscape, avec du matériel tout à fait normal et on a un peu démystifié la nuit, donc c'était assez intéressant.
Il y avait beaucoup de personnes qui ont assisté à ce travail.
On était une petite quinzaine et je vois des gens qui n'avaient jamais osé sortir leur appareil la nuit, qui ont fait dès les premiers clichés, des photos intéressantes, donc qui vont, j'espère, continuer à progresser.
Alors c'est bon un ciel la nuit, et surtout un ciel de Haute-Provence, mais après que la photo a été prise, vous avez moyen de trafiquer un petit peu l'image, de l'interpréter?
Alors, la photo nocturne, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, on a des contraintes qui sont énormes. Donc en principe derrière il y a quand même beaucoup de post-production. Ça se fait pas sur un seul cliché. Hier on a fait un seul cliché, mais d'habitude même un ciel normal, non filé ou autre, ça se fait avec plusieurs clichés, avec des montures équatoriales et tout. Mais hier on a travaillé que sur des trépieds, donc on a simplifié un maximum la prise de vue et avec un peu de post-production derrière, on arrive quand même à des résultats assez intéressants.
Qu'est-ce que ça veut dire post-production?
Bah derrière, il faut travailler le cliché parce que bon, malheureusement, la France a beaucoup de pollution lumineuse. Même ici, on avait un des ciels les plus purs d'Europe et il s'est dégradé ces 20 dernières années. Donc, on a une pollution lumineuse qui est énorme. Et il faut arriver à la diminuer et ça, c'est que le travail sur ordinateur qui arrive à la réduire.
Et après, on peut travailler chacun de son côté pour faire des photos particulières du ciel.
Oui, il n'y a pas de... Chacun a ses propres techniques. D'ailleurs, c'est ça qui est assez sympathique dans la photo astro, c'est que moi, je rencontre beaucoup d'astronomes et chacun a sa manière de travailler. Il n'y a pas une manière, il y en a plusieurs. Et on s'échange les petits trucs. Des fois, on se les garde aussi. Ça, c'est de bonne guerre. Mais en règle générale, on échange énormément et on découvre plein de choses. Mais c'est facile, hein. Maintenant, avec Internet, on a accès à des tutos. Donc, il faut se lancer.
Voilà, c'est quoi les tutos?
Vas-y. Les tutos, c'est juste des petits films qui expliquent comment travailler une photo, comment la faire. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et il suffit pas d'avoir du matériel de folie. Alors c'est sûr que les nébuleuses, les photos de grand champ, ça c'est très particulier. Mais avec un appareil photo normal, on peut faire un type de photo astro, même du planétaire. Et c'est intéressant. C'est vraiment à la portée de tous.
Merci Laurent Guette d'avoir été mon invité. Merci. On va essayer de redescendre sur Terre en passant la parole à ton voisin à côté. Alors là, c'est un personnage quand même que je viens de rencontrer à Pierre Vert. C'est Michel Auer. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même pour parler de votre maladie chronique, visiblement depuis plusieurs années. Vous avez collectionné d'abord les appareils photo, puis vous collectionnez la photo. Vous achetez des photos au kilo et vous avez fondé avec votre épouse, qui est devant nous, Michel également, que je salue, vous avez fondé la fondation Auer en Suisse, qui est une des fondations où il y a un fonds documentaire de photos peut-être le plus important au monde.
Oui, bonjour. La fondation Auer Ori pour la photographie collectionne l'histoire de la photographie. C'est-à-dire que nous ne collectionnons pas uniquement des tirages, mais tout ce qui touche de près ou de loin à la photographie. Donc il y a des appareils, on a 600 ou 700 appareils anciens qui retrace toute l'évolution de l'appareil depuis les premières chambres daguerriennes. L'appareil le plus ancien date de 1840. Et puis, la collection va jusqu'aux premiers appareils numériques. Alors là, maintenant, je crois qu'on a juste un ou deux appareils numériques pour montrer le cheminement du début aujourd'hui. Et donc, en fait, comme vous disiez, j'ai une maladie depuis toujours, la collectionnite. Ça m'a atteint très tôt. Et au départ, je collectionnais un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire gamin, des couteaux de poche, des boîtes d'allumettes, des couvercles de camembert. Mais après, j'ai aussi commencé la photographie à l'âge de 12 ans, comme Charles Lely. Et après, j'ai fait de la photographie mon métier. Et en 1961, il y avait une vente très importante à Genève pour la photographie ancienne, organisée par André Jam, le grand collectionneur français, et avec un catalogue extraordinaire. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter de collectionner les boîtes d'allumettes et les couvercles de camembert et de consacrer mes efforts de collectionnite uniquement sur la photographie.
Et vous avez acheté aussi beaucoup de photos, et notamment, c'est Peter Knapp qui m'a confié ça tout à l'heure, des photos achetées dans des marchés opus à Paris, et vous avez acheté des photos au kilo.
Alors en fait, je collectionne seul jusqu'en 1974. À l'époque donc où on décide, Michel Auri, donc à l'époque, on décide de vivre ensemble. Et en 75, à partir de 75 jusqu'en 82, on a un stand au Puce, à Saint-Ouen, au marché Paul Bert, où on vendra et on achètera de la photographie, mais des livres, des appareils et tout ça.
Donc, et vraiment des photos au kilo?
C'est-à-dire que oui, parce qu'à un moment donné, quand on va dans une succession et qu'il y a de la photographie, on vous dit ben vous débarrassez tout, faites-nous une offre, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et on embarquait tout ce qui était photographique, on achetait des lots entiers, oui. Dans des ventes aux enchères aussi, il nous est arrivé d'acheter à Drouot, c'était des corbeilles pleines de photos.
Et, avec des signatures particulières
Parfois, oui, avec les meilleurs, les meilleures surprises au monde, et puis parfois avec des choses plus terre-à-terre, comme des photographies de famille, d'enfants, de mariage, enfin la vie quotidienne transposée sur des images photographiques.
une manière peut-être de retrouver un temps révolu aussi par en plus en plongeant dans la photo, les photos familiales, les photos de famille, des photos de probablement de voyage aussi, je suppose. Vous exposez actuellement avec votre fondation il y a 3 expositions, m'avez-vous dit, à Genève.
Oui, à Genève, nous avons 3 expositions actuellement. Une qui est au musée Rath, qui est une exposition collective. C'est toutes les institutions genevoises qui ont des fonds photographiques qui exposent donc au musée Rath. Et nous faisons partie, nous sommes une de ces, un de ces partenaires qui ont des fonds photographiques. Donc ça, c'est une exposition au musée Rath. Une deuxième exposition à la bibliothèque de Genève qui s'appelle « Sans photographie », S-A-N-S. Donc il n'y a pas de photographie, mais le sujet est la photographie. Alors ça, c'est quelque chose d'assez amusant. C'est la vision des peintres, des décorateurs, de tous les artistes qui s'expriment et qui ont dessiné des photographes ou des gens en train de photographier. Donc c'est la vue des artistes sur la photographie. Et la fondation a une collection de plus de 3 000. Il y a beaucoup de caricatures dans les journaux. Il y a des grandes affiches aussi très belles, Art Nouveau. Et donc, tout ça est exposé à la bibliothèque de Genève jusque début septembre. Et la troisième exposition, c'est l'exposition qui est actuellement à la Fondation, parce qu'on a un petit lieu d'exposition. On organise 4 expositions par an. Et là, il se trouve actuellement que c'est mes propres photographies qui sont aussi exposés là jusqu'au mois de septembre.
Car évidemment, pour faire ce que vous faites, il faut avoir un goût artistique et une production déjà personnelle artistique. C'est votre cas. Et puis votre épouse qui vous a donné un coup de main dans cette recherche qui est un profil plutôt documentaliste, m'a-t-on dit, dans mon système de renseignement.
Moi, j'ai une formation de photographe. Et Michel a une formation donc artistique puisqu'elle a fait les arts décoratifs de Paris.
Et elle vous a mis en place tout le système de documentation, c'est bien ça. Sinon, je vais me retourner vers mon système de renseignement. Vous allez voir, ça va être terrible.
Oui, oui, non, mais tout ça. Mais personne n'entend ce que tu dis, Michel. Oui, alors...
Elle est devant nous, Michel, elle est dans le public.
Il faut que je parle maintenant de l'encyclopédie, puisqu'elle n'a pas de micro. En 1983, elle décide de faire une encyclopédie internationale des photographes. Et jusqu'à ce moment-là, aussi bien Michel que moi collectionnons uniquement le 19e siècle. Donc nous sommes des collectionneurs de photographies anciennes. Et au moment où on décide de faire cette encyclopédie, on se rend compte que il peut pas y avoir différentes encyclopédies, une pour le 19e, une pour le 20e, et qu'il faut donc que cette encyclopédie englobe la photographie actuelle, contemporaine. Et à partir donc de 1983, les OR collectionnent aussi bien la photographie du 19e, que la photographie contemporaine. Mais en 83, on est donc des petits nouveaux dans la photographie actuelle. Mais par contre, on se donne beaucoup de mal. On interviewe plus de 1500 photographes dans le monde entier. Et moi, je fais en même temps, quand on les interviewe, un portrait de ces photographes. Alors, cette encyclopédie est imprimée en 85. Elle a beaucoup de succès, de 2 ouvrages papier. Et après, de nouvelles éditions en 97 sur CD-ROM, c'est plus difficile. Le CD-ROM est copié. Au lieu d'acheter le CD-ROM, les gens se copient et se passent. Et actuellement, c'est donc uniquement sur notre site Internet, mais c'est sur abonnement uniquement.
On peut donner votre adresse rapidement, s'il vous plaît?
Alors, l'adresse du site Internet, c'est donc www.auerphoto.com.
Merci beaucoup Michel Auer de votre témoignage et puis de votre action depuis toutes ces années, du petit nouveau jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un de connu et reconnu dans la profession et surtout quelqu'un qui a une action utile par rapport à la photographie. On arrive à la conclusion de notre émission. Stéphane, avant de conclure, je veux juste rappeler que dans la salle polyvalente à Pierre-Vert, il y a des éditeurs de livres photos qui sont présents pendant tout le festival. Il y a les éditions Filigrane, les éditions locaux qui sont des éditions parisiennes. Il y a Arnaud Bizalian qui est éditeur et puis Le Bec en l'air, évidemment, qu'on connaît fort bien puisque Fabienne Paviette est installée à Manosque, qui sont présents et qui proposent leurs livres d'artistes ici même à Manosque. Et puis, il y a les éditions Berger Éditions. C'est un tout nouvel éditeur qui est basé en Haute-Vienne. Évidemment, vous pouvez venir à Pierre-Vert pour voir les productions de ces éditeurs. Et il y a une journée importante demain, Stéphane. C'est simplement la signature de plusieurs ouvrages dans le cadre du festival, comme d'habitude, tous les dimanches matins. Stéphane, la conclusion.
Oui, je voulais rappeler juste très rapidement les rendez-vous d'aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle la leçon de photo de Marie-Laure de Decker qui est à 15h. Notre premier parrain, Peter Knapp, en ce moment en train de faire des lectures de portfolio, sera à Carzou cet après-midi à 16h30 pour faire une visite guidée. Donc je vous recommande vraiment d'y être à 16h30. Un rendez-vous de photographes aussi à la salle polyvalente, les photographes qui pourront parler de leurs travaux, ceux qui exposent et ceux qui projettent. Et bien sûr, nous avons aussi la projection de ce soir qui est à 22h, un vernissage à la chapelle de Régus, pardon, à 18h30. Je voulais juste très rapidement, c'est ça que tu me dis. Voilà, oui. Il y aura un petit nuit photographique des Sawira qui aura lieu le 7, 8, 9 octobre cette année.
On suivra ça avec grand intérêt. Juste un petit mot sur l'exposition qu'il y a à la cave coopérative de Pierre-Vert. Visitez cette cave et goûtez effectivement aussi la production de cette cave. C'est l'exposition sur les mille et une nuits de l'Inde de Roland et Sabrina Michaud. C'est à voir, c'est magnifique. Merci Stéphane, merci à tous les invités, merci à Charles Lely qui continue à dessiner à côté de moi et qui dessine fort bien. Il peut pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Merci aussi à Nathalie et à Manu qui ont assuré derrière nous. Bon festival à tous, à bientôt.